Théologie en liberté. En rangeant ma bibliothèque. Radio Alliance Plus, au micro Michel Jas, Théologie en liberté. Et je suis pour une deuxième émission avec mon ami Philippe Genton qui nous a expliqué. Je retrouve Philippe 40 ans après, oui. Je l'ai entendu en conférence et je me dis mais c'est formidable, il n'a pas changé, il est toujours aussi dynamique. Mais pour quelque chose de différent, je t'ai connu Philippe comme jeune pasteur et à l'époque moi aussi j'étais un jeune pasteur. Et puis là je te retrouvais, on est tous les deux à la retraite mais chacun fait beaucoup de choses, on est assez actifs de notre style différent. Et tu donnais une conférence sur cette expérience à la fois sociale, spirituelle, psychologique, de rencontre de l'autre auprès des sans-domicile fixe à Alès. Et alors tu as commencé à la première émission, nous expliquer un peu cette expérience, ce que tu as découvert et ce que tu as pu organiser et donner autour de toi. Et maintenant, on va aller un peu plus loin, tu vas nous parler de cette expérience.
Oui, volontiers. Ce qui me paraît important, hein, pour reprendre ce que je disais la dernière fois, c'est de passer à l'estime de soi. C'est une conquête extrêmement importante qui est remise en place d'ailleurs par les sciences sociales aujourd'hui, mais qui est très difficile à mettre en place dans un monde qui est surtout un monde de compétition. Et l'estime de soi, il n'y a que le champion qui va l'avoir et tous les autres vont se considérer comme des gens qui ont échoué au pied du podium. C'est assez effrayant. On fabrique beaucoup de déchets aujourd'hui, beaucoup plus que ce qu'on croit. Oui. Et ça m'a frappé chez les gens qui sont donc dans la rue, qu'ils soient SDF au sens strict ou pas, mais à l'époque, avant le Covid, il y en avait beaucoup plus que maintenant, j'y reviendrai probablement, c'est de découvrir des gens, et j'ai envie de parler de l'un qui est décédé maintenant, Olivier. Olivier, c'est un gars qui a été un des lieutenants de Beauvais, qui a participé, pour ceux qui s'en souviennent, à l'occupation du Larzac, qui avait manifesté en s'enchaînant sur des grues et sur différentes machines de chantier contre le percement de certains tunnels. Enfin, c'était une de ces espèces d'idéalistes alternatifs ou altermondiales qui voulaient un autre monde, post-68, enfin les grands rêves de ces époques-là. Et c'est un homme qui a toujours été évidemment rejeté, comme ces gens sont systématiquement rejetés, et qui a fini par perdre complètement confiance en lui-même et je dirais par un effondrement de l'estime de soi. Toxicomane, alcoolique, je le dis volontiers parce que lui-même le revendiquait. Et il était dans la rue, il écrivait des textes qu'il mettait sur des papiers à côté de lui, et il espérait vendre ses textes. Ah oui. C'était des poèmes. Et puis, il avait beaucoup de peine à les vendre, c'était des poèmes avant-gardistes. Et puis des poèmes un peu hermétiques. Et puis les gens, voyant le bout de papier sur lequel c'était écrit, la mise en valeur n'était pas là, c'était un peu torchonné.
Sur des feuilles A4.
Hein, oui, la feuille qu'ils trouvaient un peu partout. Oui. Quoi. C'est des feuilles en plus quadrillées, c'était pas vendable.
Oui.
Mais je voyais qu'il accordait de l'importance. Puis je lui dis, à un moment donné, mais tu en as écrit beaucoup. Il me dit, je ne sais pas. Parce qu'il ne savait même plus très bien où ils étaient, tous ces poèmes. Et je lui ai dit, mais écoute, moi, ça m'intéresse.
Ah oui.
J'aimerais bien que tu m'en trouves au moins une cinquantaine. Et puis je t'édite.
Oh là là.
Et là, il m'a regardé avec des grands yeux en me disant, mais t'es sérieux? Je dis, si, je suis très sérieux, je trouve dommage, tu écris des poèmes puis tu les mets sur des feuilles de papier que les gens ne lisent pas, c'est dommage. Moi, franchement, je trouve que ça vaut la peine d'être mis en valeur. Donc, Il a cherché, on a commencé à les collectionner, à essayer de les trier, voir s'il y avait un ordre chronologique ou par thème, enfin, voir comment on allait les organiser. Ça a pris pratiquement 2 ans, je lui ai fait plusieurs maquettes. Chaque fois, on remettait en cause ce qu'on avait fait, il en trouvait de nouveau.
Il vivait dans la rue ou dans un...
Alors, il avait un appartement, oui, dans lequel il hébergeait à peu près tout le monde. Il était très généreux de son logement, mais bon, le soir, il était plus là, quoi. Il était complètement alcoolisé. Au bout de 2 ans, la 3e maquette était peut-être la bonne. Il était relativement satisfait. Et puis, il est mort. D'un coup. Oh. Et je me suis dit, mais moi, je vais le publier quand même.
Ah oui, parce que j'ai dans les mains l'ouvrage que tu avais publié d'Olivier, oui. Poème du Larzac à la rue avec une photo très émouvante. Donc en fait, c'est après sa mort que tu l'as édité.
Oui, je l'ai édité après.
Oh là là,
J'avais heureusement fait cette photo de lui que j'ai dit je vais la mettre sur la première page parce que je la trouve très belle. Je l'ai édité. J'ai mis une introduction qui raconte un petit peu ça. Et puis, heureusement, j'ai réussi à retrouver son père, son fils et sa sœur, qui habitent du côté de Niort.
Ouais.
Et j'ai pris contact avec eux en leur envoyant à chacun un exemplaire de ce livre.
Oh.
Et le père m'a téléphoné en me disant « J'ai toujours pensé que mon fils était un nul ». Et aujourd'hui, je découvre qui est mon fils.
Donc la qualité de son écriture.
C'est ça. Et de découvrir, au fond, l'estime de soi, Olivier, il a peut-être pu y penser lorsqu'on collectionnait, lorsqu'on faisait les maquettes. Mais tout à coup, le papa, le fils aussi et la sœur aussi ont découvert qui était Olivier.
Mais au moment où il vivait, il t'avait parlé de ce, qu'il avait un fils, il t'en avait parlé un peu de sa famille.
Très peu. Il avait évoqué qu'il avait un fils, mais qu'il ne le voyait plus.
Ah ouais.
Et puis le reste, j'ai compris qu'il avait un papa et une sœur qui vivaient dans la même ferme, mais avec lesquels il n'avait plus de contact non plus.
Ah oui.
Ouais. Donc je me suis dit, ça, en fait, c'est 3 fois rien d'éditer ça.
Ouais.
Mais ça a permis au moins à un papa, un fils et à une sœur de redécouvrir une estime de leur frère, de leur fils et de leur père. Et sûrement que ça a pu accompagner un petit peu Olivier. Et ce livre, je l'ai publié à plusieurs centaines d'exemplaires. J'ai pu l'offrir à tous les gens de la rue.
Ah oui.
Qui sont fiers comme c'est pas possible d'avoir le livre d'Olivier.
Ah, c'est ça.
Ouais. Et je l'ai renvoyé à la demande de la famille d'Olivier, à chaque membre de la famille, à 30 exemplaires chacun, parce qu'ils avaient vraiment fierté de le distribuer eux-mêmes dans leur propre réseau personnel. Et ça me paraît être exactement ce que devrait être un peu la mission de l'Église. Mettre en valeur...
Oui. L'individu que la vie nous donne, qu'on rencontre, qui est comme ça...
Absolument, parce que tout le monde a de la valeur.
Ah, oui.
Jésus le regarda pour voir la valeur de la personne. Il faut la voir. Mais après, il faut la mettre en valeur, cette valeur. Il faut la rendre manifeste, la rendre visible.
Oui.
Ça me paraît aussi très important.
Oui, parce qu'alors, c'est ce qui est vraiment formidable dans ce que tu partages avec nous et avec les auditeurs, c'est que, en fait, quand on parle d'estime de soi, c'est souvent quelque chose d'un peu égoïste. C'est pour nous, c'est pour aller mieux, etc. Alors que là, tu le tournes, c'est l'estime de soi, c'est aussi l'autre. C'est l'autre, celui qu'on rencontre, qui doit être estimé.
Mais
alors,
bien sûr.
Alors, ce n'est pas un travail classique de l'œuvre protestante. On va essayer de donner soupe, salut, savon. Mais c'est ce qui est utile.
Bien sûr.
Il y a l'armée du salut, il y a l'entraide protestante,
oui.
Il y a le secours catholique. Mais l'estime de soi, il y a l'aspect existentiel dans la rencontre de l'autre, il faut pouvoir le valoriser, un peu comme le regard de Jésus qui est porté sur nous. Jésus nous regarde et nous aime, et donc en fait il y a quelque chose qui est de l'ordre de ce partage.
Et le regard de Jésus et l'amour de Jésus est un miroir. grâce auquel je me découvre aimé, mais me découvrir aimé, c'est aussi être libre de m'aimer moi-même.
Oui.
Et non pas aimer pour ce qu'on fait. Ça, c'est le salut par les œuvres.
Oui, ah oui, on n'aime pas trop le salut par les œuvres.
Mais non, et puis même si on l'aime, il faut le dépasser. Oui. C'est bien ce qu'on fait, c'est très bien, mais ce n'est pas ainsi qu'on signe le regard de l'autre.
Oui.
C'est justement ce qu'on est. Quand Jésus rencontre la femme dite adultère, il ne lui dit pas de changer, il lui dit d'être qui elle est. Mmh. Va et ne pêche plus, sois toi.
Oui, oui.
Et qu'on ne te qualifie pas comme adultère, ça ne regarde personne, mais comme femme.
Oui.
Et sois la femme que tu es.
Oui.
Et ça me paraît tellement important. Et cette expérience avec le livre de poèmes de Olivier, j'ai pu la renouveler.
Ah oui.
Parmi les autres, il y en a un qui prenait, il sortait de son sac un petit cahier, un cahier très scolaire, et il écrivait des choses. Et je lui ai demandé, mais qu'est-ce que tu écris ? Il me dit, mais je tiens mon journal.
Oui.
Ah bon ? Oui, depuis que je suis à la rue, je tiens mon journal. Et puis, il m'en a écrit, mis une feuille sous les yeux, je l'ai lu. En plus, c'était très bien écrit.
C'était bien écrit.
Remarquablement bien écrit. Là, on sentait d'abord une très belle orthographe, très bien écrit, et quelqu'un qui avait une certaine intelligence, c'est incontestable. Et je découvre qu'il est à la rue depuis quelques mois, qu'il est en énorme conflit avec sa maman, et en grande souffrance de ce conflit. Il a 40 ans, hein. Il est un petit peu perdu dans la rue, et puis il essaye de trouver sa voie, en quelque sorte.
Mmh.
Et là aussi, j'ai trouvé que son récit était intéressant, il me l'a donné entièrement, je l'ai lu, et je lui ai dit, mais ça vaudrait la peine de le publier, mais tu rentres dans le chou de ta maman, qu'est-ce qu'elle prend ? T'as un sacré conflit avec elle, est-ce qu'on peut le publier tel quel ? Parce que peut-être qu'elle va le lire un jour.
Mmh.
Tu règles tes comptes aussi avec deux ou trois copains. Tu y vas pas de la main morte. Qu'est-ce qu'on fait ? Au début, il a dit, il faut peut-être que j'y repense, que je refasse un petit peu le tout en vue d'une publication. Et après, il s'est dit, non. Ce que j'ai eu envie d'écrire, c'est peut-être ce que j'ose pas dire et que maintenant, j'aurai le courage de dire.
Ah oui.
Je l'ai publié.
Tu l'as publié aussi, comme le livre d'Olivier.
Oui, sauf que là, je n'ai pas besoin de faire de maquette. Enfin, d'accord. Très peu, juste une maquette d'imprimerie. C'était très facile, son texte, je l'ai pris comme tel, je n'avais pas à le corriger. Quoi que ce soit, c'était son texte signé par lui. Il a souhaité, curieusement, prendre un pseudonyme. Il a pris un pseudonyme. On l'a publié. J'en m'en suis gardé quelques exemplaires, je lui ai donné tout le reste.
Oui.
Et puis, il est retourné chez sa maman.
Ah oui.
Et sa maman l'a lu le livre. Et puis, ça a dû permettre
quelque chose,
de remettre en place ce qui était abîmé dans leur relation. La suite, je ne la connais pas, parce que j'ai perdu de vue. Le Covid est passé par là.
Oui.
Mais voilà, ça a été incontestablement, là aussi, un regard sur soi-même qui a changé pour Dominique.
C'est ce qu'on va reprendre après la pause, parce que je crois que c'est vraiment fondamental.
Oui.
L'idée, ce n'est pas de devenir une grande maison d'édition.
Sûr que non.
Alors là, on pourrait dire que c'est de l'entraide protestante, on deviendrait l'essence du capitalisme. Ce n'est pas ça, c'est plutôt de l'ordre de la rencontre. C'est quand même un cadeau, quelque chose de formidable. Au micro Michel Jas, Théologie en liberté, je suis avec mon ami Philippe Genton et on parle de cette expérience qui est formidable, la rencontre de l'autre, mais qui est à la portée de tous en fonction des moyens que l'on a d'abord rencontrer, regarder et puis inventer notre vie dans la relation fraternelle. Donc on avait parlé de ce livre que tu as édité, et puis l'autre. Alors il y avait le livre d'Olivier avec cette photo magnifique du Larzac à la rue, et puis tu as écrit d'autres. Et puis je me souviens qu'au moment où tu donnais ta conférence, tu avais parlé, et ça m'avait vraiment touché, des cartes postales de ces sans domicile fixe que tu avais éditées.
Oui. Oui, il y a toujours, dans n'importe quelle population, des gens qui savent dessiner. Ou en tout cas, qui dessinent. Il y en a plusieurs qui sont des artistes en herbe. Ouais. Oh, ça finira pas au Louvre, peut-être pas, mais
Tu as continué à en éditer.
Alors oui, il y a une jeune femme, elle a 36 ans, elle a deux enfants, elle est extrêmement perturbée, une enfance que même Gensu n'aurait pas eu l'idée de la rendre si dramatique, hélas. Donc on lui a retiré ses enfants, elle a peu de possibilités de les voir, elle est constamment révoltée. Et puis, elle sait dessiner, elle passe sa rage sur le dessin. Et je l'ai invité à dessiner. Et je lui ai dit aussi, je vais t'éditer. Mais sous forme de carte postale. Donc, elle a dessiné différentes choses.
Ah, c'est magnifique, oui.
Voilà, une carte postale, c'est un formidable soleil. Et je l'ai édité parce que c'est la seule fois qu'il y a un soleil si gros. En général, il est tout petit, il est toujours dans l'angle. Alors, par contre, il n'est jamais au firmament, il est toujours en bas. Oui. Il y a une espèce de terre qui est coupée par ce soleil, des nuages extrêmement curieux qui sont plus jaunes, lumineux que gris et noirs comme d'habitude. Et quelques oiseaux qui volent là au milieu.
C'est elle qui a dessiné aussi l'oiseau là, que tu...
C'est elle qui a tout dessiné.
Ah oui, d'accord. Ouais.
Moi, j'ai simplement tout nettoyé, parce qu'elle dessine sur n'importe quoi, et souvent des choses où il a fallu que j'enlève des motifs. Et puis, la signature et la date qui étaient gribouillées ici, je les ai déplacées et je les ai mises en bas. Heureusement qu'on a Photoshop aujourd'hui qui permet de faire tout ce qu'on veut. Et je lui ai édité plusieurs fois des cartes. Et là aussi, elle est sidérée de voir que ses dessins sont propres et sont beaux. Esthétiquement, c'est très beau. Et qu'elle peut maintenant les distribuer. Parce que ces choses-là, aujourd'hui, se font à coût de 500, voire 1000 exemplaires.
Oui.
Parlons d'argent, 1000 exemplaires, c'est à peine 60 euros. Ça coûte vraiment peu de choses pour une qualité qui est au rendez-vous. Donc, elle est ravie de pouvoir les distribuer. Au lieu de faire la manche avec main vide, elle donne une carte.
Elle donne une carte et donc, voilà.
Et donc, des gens sont invités à faire un échange et de lui payer en quelque sorte son travail et puis de discuter. C'est toi qui as fait ça.
Ah oui.
Donc, ça permet une valorisation, donc une estime de soi, d'avoir une fierté. Alors, elle les dédicace, vraiment, elle joue la star par moment avec ça. Ça lui fait beaucoup de bien. Ça, c'est un homme qui est borgne, hélas, il a perdu un œil, et il fait uniquement des portraits d'animaux. Là, c'est un oiseau, il fait des têtes de lion, des têtes de chien, des têtes diverses, mais toujours d'animaux. Et là aussi, il fait que du noir et blanc, je l'ai lui édite, et au lieu de tendre la main, il peut offrir. Il y a une autre fille qui fait du non-figuratif, notre femme qui fait du non-figuratif, et là aussi, elle fait des dessins qui sont des formes et des couleurs mouvantes, et puis... elle souhaite qu'on fasse une mise en page de telle sorte qu'elle puisse mettre un petit mot, un petit message imprimé sous l'image, qui est en général un mot de gratitude pour remercier les gens qui lui donnent quelque chose. Ça permet une autre forme d'échange. Donc ça permet à ces gens d'avoir une place dans la société.
Oui.
C'est plus le SDF, c'est la personne qui fait des tableaux, c'est la personne qui dessine, c'est elle qui a fait. Et puis les gens peut-être vont un jour s'en servir comme carte postale. Il y a un facteur qui va l'envoyer, elle va se promener, je ne sais pas où. Où ça va, ce genre d'aventure, j'en sais rien. Mais aujourd'hui, la technique permet de faire ces choses. Pourquoi s'en priver?
On
peut tout imaginer.
Oui.
À partir de là, il y a le chant qui peut être valorisé. Pourquoi pas? Moi, je sais pas faire ça, mais il y aurait quelqu'un qui saurait animer le chant. Il y a de quoi chanter. Il y a de quoi faire n'importe quel spectacle. Il y en a qui sont assez cabots pour le faire. Et d'autres.
On pourrait dans nos églises peut-être faire une exposition dans des temples, d'exposition d'œuvres de ces personnes qui sont normalement rejetées de la société.
Absolument.
Ou alors qui interprètent un chant.
Ça Absolument.
Moi, je crois qu'on pourrait l'inventer, oui.
Ça, ah oui, ça c'est facile.
On n'en parle pas en synode, parce que ça ne marcherait pas en synode. Mais
non, c'est peut-être pas le lieu pour en parler. C'est dans la rue que ça se passe.
Oui, oui. Mais il faut que peut-être que les chrétiens inventent ce type d'ouverture vers l'autre.
Certainement.
Des projets un peu fous, mais qui sont à notre portée.
Mais sûrement. Alors, ils sont largement à notre portée.
Oui.
Par exemple, trois d'entre eux sur Alès... sont assez organisés. Ils ont trouvé un terrain, c'est comme ça qu'ils disent. En fait, il y a plein de terrains qui sont plus ou moins en friche dans les environs d'Alès. Ils se sont pas posé la question qui est le propriétaire. Ils ont décidé d'y aller là avec une bêche et deux râteaux. Et ils plantent leurs légumes.
Ah oui.
Et donc, ils mangent leurs propres légumes. Et ils décident de faire des boutures. Et ils font des boutures, ils vont aux déchetteries ramasser tous les petits pots en plastique des fleuristes là, pour faire des boutures là-dedans. Et puis quand ils en ont assez et en bonne saison, ils vont au marché aux puces du dimanche et ils vendent leurs boutures et ils ont leur clientèle.
Ah, c'est ça.
Parce qu'ils font bien ça, et ils le vendent pas cher, et puis les gens disent, ah ben, on les connaît, et puis ils passent même des commandes. C'est quasiment une auto-entreprise.
Oui.
Donc, ils sont eux-mêmes parfaitement capables de faire ça.
Oui. Et alors, ce que je trouve formidable, c'est qu'en fait, tu nous dis que c'est possible de pouvoir inventer ce type d'expérience, de rencontre. Et puis, c'est intéressant pour nous. Et en même temps, tu le relis aussi par rapport à ta spiritualité chrétienne, ta relecture de la Bible, et puis aussi la psychologie freudienne ou pas.
Oui, alors je me rends pas bien compte si on a encore du temps, mais j'ai envie de parler de Freud.
Oui.
Parce qu'on réagit, on dit oui, mais ces gens, ils sont alcooliques, ils boivent beaucoup de bière, la plupart sont toxicaux, et c'est malheureusement aussi la réalité. Mmh. Et Freud a, à mon avis, écrit un jour quelque chose d'absolument extraordinaire. Mmh. Malaise sur la civilisation, malaise sur la culture. Un petit bouquin qu'il a écrit en 1930. Il écrit à peu près ceci, je le dis de tête, hein. La vie que nous nous imposons est beaucoup trop dure. Mm. Pour la supporter, nous n'avons que trois solutions. Mm. Soit des dérivatifs, soit des substitutions, soit des stupéfiants.
Oui.
Et il dit, nous n'avons pas d'autres solutions. Point final.
Oui.
Et la place du stupéfiant chez Freud, c'est aussi bien la drogue et le tabac. C'est aussi l'alcool, oui, mais c'est aussi la nourriture lorsqu'on est boulimique. C'est aussi les médicaments qu'on va demander à son médecin parce qu'on ne peut pas dormir, parce qu'on est en souci, parce qu'on est angoissé, etc. etc. Ça peut être n'importe quelle substance dans la mesure où chimiquement elle apporte quelque chose.
Ah oui, c'est ça. Oui. Et la culture, l'art.
Oui, alors l'art, c'est un dérivatif.
Un dérivatif, ah oui, d'accord, c'est l'autre.
C'est ça, c'est un dérivatif qui fait du bien, mais lorsqu'on ne sait pas, parce qu'on n'a pas les moyens de jouer du piano et de jouer du Chopin dans son salon, ou d'écouter sur une chaîne stéréo, il reste éventuellement que la bière.
Mmh.
Et au lieu de regarder la bière, qui est un symptôme, une fois de plus, ne pas oublier de regarder la personne.
Ah, oui.
Et de se mettre à l'aimer. Parce que toutes les addictions sont tous des symptômes. Et ça ne sert à rien de se battre contre le symptôme. Là, l'État fait tout faux. Oui. Mais il a 100% faux.
Mm-hmm.
Hein? Il veut toujours attaquer le problème, alors que le problème n'est pas là. Le problème, il est dessous.
Mm-hmm.
Si quelqu'un fume, c'est qu'il a une raison.
Mm-hmm.
Et que cette raison, il ne la connaît pas. Donc, se battre contre le tabac, ça ne sert à rien.
Mmh.
Mais il faut aider cette personne à devenir libre par rapport à un problème qui le hante. Et dans la rue, nous sommes constamment avec ça.
Mmh.
Et l'estime de soi, eh bien, c'est aussi de devenir libre par rapport à toutes les habitudes, toutes les addictions, toutes sortes de comportements qui sont en fait des comportements de peur, des comportements d'angoisse, des comportements d'insécurité.
Ah oui.
Et de permettre à des gens de valoriser leur personne par la création d'œuvres, par de la réalisation.
Mmh.
Au début, avec eux, j'ai écrit un bouquin. Et pour illustrer ce bouquin, j'ai fait leurs photos.
Ah oui.
Et j'ai aligné 40 portraits à l'intérieur du bouquin. Oh. La plupart de ceux qui sont dans la rue ne sont pas analphabètes, mais illettrés.
Ah, oui.
Ils n'arrivent plus, ils n'ont plus la compétence de la lecture. Je leur ai à chacun donné 10 exemplaires de ce bouquin pour qu'ils en fassent ce qu'ils en veulent. La plupart n'ont pas réussi à le lire, mais ils le montrent. J'ai ma photo dedans. Et de dire, il y a ma photo dans un livre qui a été édité. Pour eux, c'est une valorisation énorme. J'ai ma photo dans un livre. J'existe, exactement.
Ouais. Je suis reconnu, j'existe.
Et ça, j'aimerais terminer en citant une femme que j'ai rencontrée dans la rue. Elle avait à ce moment-là 24 ans.
Oui.
Divorce des parents, frères et sœurs qui partent avec papa, elle part avec maman. Maman n'arrive pas à surmonter la difficulté et cette jeune femme se retrouve très vite un peu lâchée, un peu perdue. Dès l'âge de 12 ans, elle ne va plus vraiment à l'école, elle est beaucoup dans la rue, elle fait beaucoup de bêtises. Et puis dès qu'elle a 16 ans, plus d'école, de scolarité obligatoire, et puis à 18 ans, ma foi, elle est majeure et on la lâche complètement. Donc alcoolisme, donc toxicomanie. Et lorsque je l'ai rencontrée, elle allait vraiment très mal.
Ah.
Il se trouve qu'elle s'est un peu agrippée à moi, je pense, parce que je représente un petit peu le vieux, le papy, quoi, quelque chose comme ça. Et on s'est beaucoup, beaucoup rencontrés. Et j'ai appris à lui faire confiance. Et j'ai dit que j'avais besoin d'elle. Et je lui ai permis de faire quelque chose dont j'avais besoin dans ma vie personnelle, dans ma vie privée, au niveau bâtiment et des choses comme ça. Elle a commencé à prendre un peu confiance en elle. Maintenant, elle ne se drogue plus du tout.
Ah oui.
Elle ne boit presque plus.
Oui.
Depuis, elle a passé son permis poids lourd. Elle l'a réussi.
Ah, formidable.
Hein? Elle a fait le permis grue, c'est-à-dire la grue qui prend les charges et qui la met sur le camion. Elle sait manipuler là. Et puis, elle a fait le permis qui permet d'utiliser toutes les machines de transport interne des clerks, des élévateurs pour mettre la marchandise en palette, etc. Elle a réussi tout ça. Parce qu'à un moment donné, elle a eu suffisamment confiance en elle se libérer de certaines substances et pour se donner des objectifs.
Oui.
Et ça, je crois que c'est thérapeutique, mais je ne suis pas un thérapeute, moi. Je ne veux pas le prétendre. Simplement, à un moment donné, j'ai parié que je pouvais lui faire confiance.
Ah, c'est formidable. Merci Philippe Genton. Écoute, ce témoignage est vraiment émouvant et puis nous fait réfléchir sur comment nous, à notre tour, on peut inventer une rencontre de l'autre qui tienne compte des fardeaux de la vie. On est tous aussi avec des fardeaux, des difficultés. Mais il y a dans l'écriture une proposition de vie nouvelle qui nous est donnée quand on est aimé, quand on se tourne vers la vie de façon positive. La vie nouvelle est possible. Merci.
Absolument.
Philippe.
Merci beaucoup à toi. Merci
au
Michel.
Au plaisir. Au revoir.
Au revoir.
Vous êtes sur Radio Alliance Plus.